Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. Chapitre 29, Le pique-nique. Ce vendredi matin, Tom apprit une bonne nouvelle. La famille du juge Thatcher était rentrée à Saint-Pétersbourg la veille au soir. Du coup, Joe l'Indien et le trésor se virent relégués au second plan de l'actualité, Becky Thatcher ayant la vedette. Tom la rencontra entourée de nombreux camarades et cette entrevue fut le prétexte de toutes sortes de jeux. La journée se termina de la façon la plus heureuse. À force d'importuner sa mère, Becky finit par obtenir que son fameux pique-nique, promis depuis si longtemps et si longtemps différé, serait fixé au lendemain. Elle était ravie. Tom aussi. Les invitations furent lancées le soir même. Et toute la jeunesse du village se consacra aux préparatifs de la fête. Tom était si énervé qu'il ne put s'endormir que très tard. Si seulement Huck pouvait, dans quelques heures, venir miauler sous sa fenêtre, il aurait son trésor à temps pour éblouir Becky et tous ses amis. Espoir déçu, pas de signal cette nuit-là. Le lendemain matin, entre 10 et 11 heures, la jeunesse se trouvait rassemblée chez le juge Thatcher et attendait le signal de départ. Selon la coutume, les personnes âgées s'étaient abstenues pour que rien ne porte ombrage à la joie des enfants. On estimait suffisant que leur sauvegarde fût assurée par quelques jeunes filles de 18 à 20 ans et quelques jeunes gens de 20 à 23 ans. Le vieux bac à vapeur avait été frété pour l'occasion. Bientôt, la bande joyeuse, munie de paniers à provisions, se dissémina dans la rue principale du village. Sid était malade. Il n'avait pu accepter l'invitation. Mary resta à la maison pour lui tenir compagnie. Avant le départ, Madame Thatcher fit ses recommandations à sa fille. « Il est probable que vous rentrerez tard. Le mieux serait peut-être que tu passes la nuit chez l'une ou l'autre de tes amies qui habitent près du débarcadère. C'est entendu, maman. J'irai chez Susie Harper. Très bien. Tâche d'être sage et ne gêne personne. » En chemin, Tom dit à Becky. Dis donc, voilà ce que nous allons faire. Au lieu d'aller chez Susie Harper, nous monterons là-haut et nous irons coucher chez Madame Douglas. Elle aura des glaces. Elle en a presque tous les jours, plein sa cuisine. Et elle sera enchantée de nous recevoir. C'est cela, ce sera très amusant. Après un instant de réflexion, Becky ajouta. Et maman, qu'est-ce qu'elle va dire?
T'en fais pas, elle n'en saura rien.
La conscience de Becky n'était pas tranquille. Mais ce n'est pas bien de...
Mais comment veux-tu que ta mère le sache? Et puis quel mal y a-t-il?
Tout ce qu'elle demande, c'est qu'il ne t'arrive rien. Si elle y avait pensé, c'est ça qu'elle t'aurait dit de faire, j'en suis sûre. Recourir à la fastueuse hospitalité de Madame Douglas, c'était bien tentant. Les scrupules de Becky n'y résistèrent pas. Les deux enfants décidèrent de ne souffler mot à personne du programme de la soirée. Tout à coup, Tom se rappela qu'il était possible que Huck vînt cette nuit miauler sous sa fenêtre. Cette considération jeta un froid sur le plaisir qu'il se promettait. Que faire? Renoncer à aller chez Madame Douglas? Il n'en avait pas le courage. Et pourquoi y renoncer? Du moment que Huck n'était pas venu la nuit précédente, il n'y avait aucune raison pour qu'il vienne cette nuit-là plutôt qu'une autre. D'un côté, la certitude d'une soirée agréable, de l'autre, la vague possibilité d'une chasse au trésor. Avec la légèreté de son âge, Tom décida de faire ce qu'il aimait le mieux. De la journée, il ne penserait plus à la caisse. À 5 kilomètres en aval du village, le bac débarqua ses passagers dans une crique entourée de bois. Peu après, des rires et des cris de joie réveillèrent les échos des alentours. Les uns jouèrent, les autres partirent en promenade. Un appétit féroce finit par rassembler tout le monde et les provisions furent vite consommées. Le repas terminé,
les convives se reposèrent à l'ombre des grands arbres. Puis quelqu'un demanda « Qui veut aller visiter la grotte ?» Tous et toutes voulurent y aller. On distribua des chandelles et les enfants escaladèrent la colline. À flanc de coteau, l'entrée de la grotte, en forme de A majuscule, était commandée par une porte en chêne massif. La porte était ouverte. Elle donnait accès à une sorte de vestibule de petite dimension, froid comme une glacière, et garni sur ses parois d'une sorte de calcaire humide. Entre la vallée ensoleillée et les ténèbres de l'intérieur, le contraste était saisissant. Mais l'intérêt de ce spectacle fut vite épuisé. La troupe reprit ses ébats. Un garçon alluma une chandelle. Toute la troupe se rua sur lui. Il eut beau opposer une résistance héroïque, sa chandelle fut bientôt éteinte. Nouveau rire, nouvelle poursuite. Un autre recommença et subit le même sort. Mais tout a une fin. Peu après, les visiteurs descendirent le long de la principale voie d'accès aux profondeurs. La lueur des chandelles n'en éclairait que faiblement les parois qui se rejoignaient à une hauteur de 20 mètres. Le passage n'avait guère plus de 3 mètres de large. De distance en distance, d'étroits couloirs bifurquaient à droite et à gauche. La grotte de MacDougall était en somme un vaste labyrinthe d'allées tortueuses qui se croisaient et se recroisaient en tous sens sans mener nulle part. On prétendait qu'il était possible d'y errer pendant des jours et des nuits sans en trouver la fin. Au fur et à mesure que l'on descendait, on trouvait un deuxième labyrinthe sous le premier, et ainsi de suite. Personne ne pouvait se vanter de connaître à fond la grotte. C'était matériellement impossible. La plupart des jeunes gens en connaissaient une partie, au-delà de laquelle on disait qu'il était risqué de s'aventurer. Tom y avait pénétré aussi loin que quiconque. Les promeneurs s'égaillèrent sur plus d'un kilomètre de long. Des troupes, ayant pris les allées latérales, se retrouvèrent au carrefour. D'autres réussirent à éviter toute rencontre pendant plus d'une demi-heure sans dépasser les limites du terrain déjà exploré. De temps en temps, des invités regagnaient l'entrée de la grotte, couverts de taches de chandelles et barbouillés de terre glaise de la tête aux pieds, essoufflés, fatigués, ravis. Ils s'aperçurent avec stupeur que personne ne s'était inquiété de l'heure et que la nuit était sur le point de tomber. La cloche du bac sonnait depuis une demi-heure. Mais cette journée de fête se terminait à la satisfaction de tous. Et quand le bac, passagers à bord, eut quitté la rive, personne, sauf le capitaine, ne s'alarma de ce retard. Quand le bac éclairé passa l'appontement sans s'y arrêter, Huck était déjà à son poste. Il n'entendit aucun bruit à bord, car les jeunes gens, morts de fatigue, tombaient de sommeil. Il se demanda quel service faisait le bac et pourquoi il ne s'était pas arrêté à l'appontement. Puis, son attention se reporta sur sa mission. La nuit devenait de plus en plus sombre. Des nuages s'amoncelaient. 10 heures sonnèrent. Les bruits s'apaisèrent, les lumières s'éteignirent. Les derniers passants rentrèrent chez eux, le village s'endormit et Huck resta seul avec le silence et les fantômes. 11 heures. Les lumières de la taverne s'éteignirent à leur tour. L'obscurité devint générale. Huck continua à veiller. Il ne se passait rien. Le temps lui sembla long. Il commença à se demander si ce qu'il faisait servait à quelque chose. Pourquoi n'irait-il pas se coucher ? Soudain, un léger bruit parvint à son oreille. Instantanément, Huck fut sur le qui-vive. Quelqu'un avait ouvert la porte de l'auberge donnant sur l'impasse. Elle se refermait doucement. Huck courut jusqu'au coin de la briqueterie. Une seconde plus tard,
deux individus passèrent tout près de lui à le frôler. L'un d'eux avait quelque chose sous le bras. La caisse ! Alors, ils emportaient le trésor. Fallait-il prévenir Tom sur le champ ? Non, ce serait absurde. Les hommes disparaîtraient avec le trésor et on ne les retrouverait plus. Il fallait les prendre en filature. La nuit noire rendait la chose facile. Tout en monologuant ainsi, Huck se glissa hors de sa cachette. Et, pieds nus, avec des précautions de chat, il emboîta le pas aux deux noctambules en maintenant entre eux et lui une distance prudente. Ils commencèrent par se diriger vers le fleuve, puis tournèrent à gauche dans une petite rue transversale jusqu'à un sentier menant à Cardiff Hill. Ils prirent ce sentier, passèrent sans hésitation le long d'une maison habitée par un vieux Gallois, à mi-chemin du sommet, et continuèrent à monter. « Bon, se dit Huck, ils vont cacher la caisse dans la carrière. » Mais au lieu de s'y arrêter, ils poursuivirent leur route, gagnèrent le haut de la colline et disparurent dans un taillis. Huck ne courait plus aucun danger à se rapprocher d'eux. Il pressa le pas, puis ralentit l'allure. N'était-il pas allé trop vite ? Il s'avança un peu, s'arrêta, écouta. Pas d'autre bruit que celui des battements de son cœur. Dans le lointain, une chouette ulula. Sinistre présage. Mais aucun bruit de pas. Tout était-il perdu ? Huck était sur le point de continuer quand il entendit tousser à un mètre de lui. Son cœur faisait dans sa poitrine des bonds désordonnés. Il trembla comme s'il avait plusieurs accès de fièvre à la fois, se sentant si faible qu'il allait tomber. Il savait où il était. Il savait qu'à 5 pas de lui, il y avait une petite barrière donnant accès à la propriété de Madame Douglas. C'est parfait. Qu'ils enfouissent leur trésor ici. Il ne sera pas difficile à retrouver. Une voix sourde s'éleva, celle de Jolandia.
Sacrée bonne femme, dit-il. Il y a du monde chez elle. Les fenêtres sont éclairées.
Moi, je ne vois rien. Cette seconde voix était celle de l'inconnu de la maison hantée. Huck eut un frisson. Si Joe était venu là, c'était pour mettre à exécution ses projets de vengeance. La première idée de Huck fut de s'enfuir. Puis il lui revint en mémoire que Madame Douglas avait été plus d'une fois très bonne pour lui. Peut-être ces hommes allaient-ils la tuer. Oserait-il l'avertir ? Non, il risquerait de se faire prendre. Toutes ces pensées lui passèrent par la tête entre la remarque de l'étranger et celle qui allait suivre de Joe l'Indien. Si tu ne vois rien, c'est parce que le buisson t'en empêche. Regarde par ici. Vois-tu maintenant ?
Oui, en effet, il doit y avoir du monde. Nous ferions mieux d'y renoncer.
Y renoncer au moment où je me dispose à quitter définitivement le pays ? Y renoncer ? Alors que c'est peut-être ma dernière chance. Je te le dis et je te le répète, ce n'est pas pour ce qu'on pourra trouver chez elle. Ça, je te le laisse. Mais son juge de paix de mari m'a rendu la vie dure bien des fois. Il m'a fait condamner pour vagabondage. Et ce n'est pas tout. Il m'a fait fouetter. Devant la porte de la prison, comme un nègre, au su et au vu de toute la ville. Fouettez-moi, tu entends ? Il est mort avant que j'aie pu me venger, mais c'est sur elle que je me vengerai.
Oh, ne la tue pas. Tu ne vas pas faire ça.
La tuer ? Qui te parle de la tuer ?
Oui, je le tuerais, lui, s'il était là. Mais elle, non. Pour se venger d'une femme, on ne la tue pas. On la défigure. On lui fend les narines, on lui coupe les oreilles.
Oh,
mon Dieu, mais c'est épouvantable. Garde tes réflexions pour toi, ça vaudra mieux. Je l'attacherai à son lit. Si elle meurt à force de saigner, tant pis après tout. Si ça lui arrive, je ne verserai pas une larme. Tu vas m'aider, tu es là pour ça. Seul, je n'y arriverai pas. Si tu bronches, je te fais ton affaire à toi aussi, tu comprends? Et si je te tue, je la tue. Comme ça, personne ne saura qui a fait le coup. S'il le faut absolument, allons-y tout de suite. Le plus tôt sera le mieux. J'en suis malade. Maintenant, avec tout ce monde, tu n'es pas fou? Si tu continues comme ça, je vais finir par me méfier de toi. Nous attendrons qu'il soit parti. Nous ne sommes pas pressés. Huck eut l'impression qu'un silence allait s'en suivre. Un silence plus macabre encore que cette conversation. Retenant son souffle, il recula prudemment, ne posant fermement le pied qu'après avoir tâté le terrain, risquant maintes fois de tomber, tant d'un côté que de l'autre. Chaque pas en arrière était l'objet de la même précaution. Une souche craqua sous son poids. Il s'arrêta, retint de nouveau son souffle et écouta. Aucun bruit, rien ne bougeait. Sa gratitude envers la Providence était sans bornes. Alors, il fit demi-tour entre les haies de sumac, manœuvrant avec autant de précision que s'il eût été un bateau. Puis refit en sens inverse le chemin qu'il venait de parcourir. Parvenu à la carrière, où il était en sûreté, il ne fit qu'un bond jusqu'à la maison du Gallois. Il frappa à la porte. Les têtes du vieux et de ses deux fils, deux gars bien bâtis, apparurent à une fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui frappe à cette heure-ci? Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Ouvrez-moi vite, j'ai quelque chose à vous dire. »
« Mais qui êtes-vous ?»«
Huckleberry Finn, ouvrez vite !»«
Huckleberry Finn ? D'ordinaire, ce n'est pas un nom qui fait ouvrir les portes. »« Enfin, faites-le entrer, les gars, et voyons ce qu'il veut. »
Huck haletait. « Ne dites jamais que c'est moi qui vous ai dit ça. Ne le dites pas. Il me tuerait. Mais Madame Douglas a été souvent si bonne pour moi. » Qu'il faut que je vous dise. Je vous le dirai si vous me promettez de ne pas dire que c'est moi qui vous l'ai dit.
Pour qu'il se soit mis dans cet état, fit le vieux, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous.
Parle, personne ne dira rien. Tu peux en être sûr.
3 minutes après, le vieux et ses fils, armés jusqu'aux dents, grimpaient la colline et gagnaient le sentier sur la pointe des pieds. Huck n'alla pas plus loin. Caché derrière un rosier, il écouta. Après un moment de silence angoissant, une détonation puis un cri se firent entendre. Huck n'en demanda pas davantage. Il dévala la colline aussi vite que ses jambes pouvaient le porter.